c'est pour me présenter, puisque donc ici au CIF, je suis donc le directeur, mais la fonction principale, c'est la présidente. En fait, voilà, c'est donc Aude qui fait beaucoup plus que moi. Et alors, un mot sur le personnage que vous avez en face de vous. Je suis prêtre du diocèse de Nanterre, à Boulogne-Billancourt pour l'instant, où je rends quelques services, mais ce n'est pas ma tâche principale, ni mon ministère premier, puisque je passe toute la semaine pratiquement à enseigner à l'Institut catholique, où j'ai deux gros pôles. D'abord, j'ai une formation, après la théologie, j'ai fait beaucoup de philosophie, donc je suis plutôt du côté de la philosophie à l'Institut catholique, où j'enseigne l'anthropologie philosophique, la philosophie morale, la philosophie de la nature, etc. Et mon deuxième pôle, c'est ISTA, Institut supérieur de théologie des arts. À l'Institut catholique, tout est supérieur, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Enfin, c'est quand même des masters, alors que le reste sont des licences. Et là, j'y enseigne une spécialité qui est l'architecture sacrée. Et donc à l'ISTA, on a chacun est spécialiste, il y en a qui font la peinture, la musique, moi c'est l'architecture, ce qui explique que le cours de christologie que je donne ici est pratiquement comme support l'iconographie chrétienne. Voilà, donc ça a été l'option que j'ai prise d'emblée de ne pas faire un cours de christologie. Alors christologie, ça, j'expliquerai évidemment quand j'introduirai le cours. C'est la question, qui est Jésus, vrai Dieu, vrai homme, c'est quoi son statut, l'incarnation, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, ouais, ce genre de choses. Or, l'art chrétien s'est évidemment beaucoup saisi de cette question et a donné des accentuations au cours des siècles qui sont parfaitement intéressants. Et donc, c'est ça que je vais faire dans le cours de christologie. Voilà, ceci explique cela. Et à part ça, je vous ai mis quelques petites, pour continuer à me présenter, quelques petites vignettes. Vous me trouverez beaucoup sur YouTube et sur KTO, parce que j'y fais pas mal de petits formats ou de conférences un peu plus grandes. Mais comme par hasard, les conférences un peu plus grandes n'ont pas de succès. C'est les capsules qui ont beaucoup de succès. Les capsules, c'est un petit format de 8 minutes où j'explique un mot. Rédempteur, par exemple. Narthex, des trucs comme ça. Et puis, enfin voilà, vous chercherez. Et puis alors, à Boulogne-Billancourt, j'ai quand même deux spécificités, malgré mon âge. C'est assez curieux. J'accompagne un groupe de pop louanges depuis maintenant 8 ans. Le groupe Open, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est-à-dire le groupe, peut-être que vous connaissez Glorious. Il y en a quelques-uns qui connaissent, voilà. Glorious, et voilà, ils ont engendré Open, et Open a engendré Praise. Et donc, quand Open est venu s'installer sur le diocèse de Nanterre, on m'a demandé de les accompagner, ce qui est un drôle de ministère. Ouais, c'est de la pop louange, et donc tous les dimanches soirs, on a une messe animée par eux. C'est la messe la plus remplie de Boulogne. C'est un peu curieux, surtout pour quelqu'un comme moi. Et à Boulogne-Billancourt, je m'occupe également beaucoup des scouts unitaires et Scout de France et des équipes Notre-Dame. Et voilà, c'est tout. Allons-y avec le CIF. Je voudrais tenter de dire ce qu'est cette intelligence de la foi à laquelle le CIF travaille et vous avec. Ou, si vous voulez, comment s'articule, s'harmonise, c'est le mot le plus juste, foi et raison. C'est un vieux sujet, hein, dont on parle depuis tout le temps, depuis Justin. Mais tout de suite dire que l'intelligence de la foi, ce n'est pas équivalent à une foi d'intello. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Quand on se lance dans des études, il y a toujours ce petit côté un peu inquiétant. Éclairer sa foi par la raison, ce n'est pas avoir une foi d'intello. On va le voir, je vais vous expliquer tout à l'heure, il y a la dimension du sensible qui importe beaucoup, la dimension du communionnel qui importe beaucoup aussi. Mais la foi, et ça c'est une exigence du christianisme d'emblée, c'est-à-dire dès les premiers siècles, la foi doit pouvoir animer et elle-même être animée par toutes les dimensions de notre existence. À la différence du bouddhisme, qui rejette par exemple les dimensions sensibles, à la différence d'un certain islam, qui rejette la dimension intellective, le christianisme a toujours exigé d'être éclairé et d'éclairer l'ensemble des dimensions de notre humanité. C'est quand même très intéressant. Quand on fait des études comparées des religions, c'est un statut. L'intelligence dans le domaine chrétien n'est pas une option, tout comme le sensible. Et pourquoi ? Mais parce que notre humanité, notre vérité humaine est composée d'intelligence, de sensibilité, de corporéité, d'accompagnement, et tout ça vient animer la foi. Et tout ça est animé par la foi. Bon, voilà. Et donc, l'existence fraternelle, l'existence sociale, l'existence sensible, l'existence spirituelle, l'existence intelligible, tout ça contribue à l'intelligence. Et donc, l'intelligence n'est pas une espèce de satellite qui tourne autour de notre existence pour la contrôler, la mesurer. Elle est plongée dedans. Et la foi, tout autant. Je vais vous proposer ceci, je ne vais pas durer une heure, je ne vais pas vous faire une conférence d'une heure. Deux images, d'abord, pour commencer à penser ce que je viens de dire. Puis le statut de l'interrogation. Et puis les dimensions, les différentes dimensions de l'intelligence. Alors, ma première image, c'est, vous la trouvez, entre autres, sur le site du CIF. C'est le mont Ararat, en Arménie, enfin, aujourd'hui en Turquie. Le mont Ararat est au pied du mont Ararat, ici en Arménie. Vous avez le monastère de Grégoire l'Illuminateur, à Artachat. Nous pourrions croire que ce que nous allons aborder est immense, inatteignable, comme le Ararat. Penser, étudier la foi, penser Dieu, trois points d'exclamation et quatre points d'interrogation, nous avons raison, c'est hors d'atteinte. Mais nous pouvons y participer. Nous pouvons participer à cette compréhension de Dieu, alors que nous ne le comprendrons jamais. Ah ça, oui, c'est déjà hyper intéressant de réussir à penser ça. Comprendre, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire saisir par le concept. De Dieu, on peut faire ça ? Certainement pas. Mais on peut approcher et on peut même participer. Comme cette montagne, où on peut quand même approcher, monter. D'abord, en nous, il y a des connexions nécessaires. Il y a en effet, en nous, en tout homme, le désir de connaître. L'homme naturellement cherche à connaître. C'est la nature de l'homme. La foi, le désir de l'absolu, nous ont déjà fait grandir et ont déjà ébauché en nous une sorte de réponse à ce désir. C'est-à-dire, nous avons déjà un dispositif, c'est ce que j'appelle des connexions. Donc, vous voyez, l'intelligence de la foi ne va pas dégringoler verticalement. Elle va venir réveiller en nous des zones déjà vives, mais pas forcément énoncées. Bon, voilà. Ensuite, les pensées qui montent vers le sommet participent du sommet. C'est-à-dire, vous êtes sur une randonnée pour aller au mont Ararat, à partir du moment où vous êtes sur la piste qui monte au sommet, vous êtes sur le mont Ararat. Voilà. Et donc, à partir du moment où on commence à réfléchir à la foi, on est dans cette intelligence de la foi. Ça, c'est quelque chose d'assez important à comprendre. Sans les pentes que nous allons parcourir, pas de sommet. C'est-à-dire, la pente est raide, le chemin est long, il y a des lacets en montagne, mais on commence déjà à comprendre. Et ne croyez pas, enfin c'est quelque chose qu'il faudrait dire plutôt à l'université, vous voyez, avec des gens qui vont aller jusqu'en thèse, ne croyez pas qu'un jour au sommet vous y serez. Voilà, vous connaîtrez Dieu quand vous le verrez face à face. Voilà, et vous serez alors en lui. Mais par contre, ou participer à la connaissance de Dieu dès que vous êtes sur la piste. Et il ne faut pas vous inquiéter qu'il y ait des lacets. De temps en temps, vous avez l'impression de faire comme marche arrière. Mais non, vous ne faites pas marche arrière. C'est un lacet de montagne. Et de temps en temps, il y a des difficultés. De temps en temps, vous avez l'impression de redescendre, puis de remonter des rythmes. Enfin bref, voilà. C'est ça le travail de l'intelligence de la foi. Ah oui, il faut mettre une petite photo qui va avec. Vous voyez, là, ils ont encore du taf, hein, avant d'être au sommet. Ça, c'est côté turc. Deuxième image, l'arc boutant. Vous en voyez ici, on est à Strasbourg. L'arc boutant, c'est cette espèce de poutre oblique qui vient consolider le haut du mur en son endroit le plus faible, puisqu'il doit supporter les obliques de la voûte. Voilà, vous avez compris. Ah, formidable. C'est donc de l'art ogival. Oh zut, c'est pas ça que je voulais du tout vous montrer. Je recommence. Je me suis trompé de bouton. C'est donc de l'art ogival. On a voulu monter vers Dieu. C'est tout le travail du XIIIe siècle. On a voulu la clarté de l'énoncé. On a voulu participer à la lumière et partager cette lumière captée. C'est ça l'art gothique, hein. Et c'est ça la mentalité du XIIIe siècle. Et c'est au XIIIe siècle qu'on invente les universités chrétiennes. Enfin, c'est à cette époque qu'elles explosent. Elles ont été créées un peu avant. Monter vers la compréhension, c'est lumineux. Voilà ce que dit l'art gothique. Et cette lumière de l'intelligence éclaire notre voie, éclaire notre chemin. Et du coup, l'Église qui vient apporter la lumière de la foi, éclaire la cité. Voilà la différence entre l'art gothique, qui éclaire la cité, et l'art roman, qui transfigure le monde. C'est deux mentalités différentes. Enfin ça, vous irez suivre mes cours à l'ISTA pour approfondir tout ça. En fait, rien de cette structure fine que vous voyez ici, et très sophistiquée, ne tiendrait sans les arcs boutants. C'est une image que j'apporte ici des rapports entre la foi et la raison. C'est-à-dire, la foi, en effet, est parfois illuminative, mais elle a besoin d'étais. Elle a besoin de contre-butants. Elle a besoin de colonnes. Elle a besoin de fermeté. La foi est une lumière sur la route, certes, mais elle doit être étayée par la raison. En gros, pour que la foi de l'Église soit habitable, il faut qu'elle puisse être pensée. Donc vous voyez, je change de formule pour dire toujours la même chose. Hein. Voilà, la foi est habitable. La foi dans son contenu, dans son énoncé, est habitable. Mais elle doit être pensée. La foi nous habite. Mais elle n'habite pas en vérité si elle n'est pas pensée. Puisque l'intelligence fait partie de notre être. Donc pourquoi la foi viendrait occuper un petit secteur de notre vie? Non, non, elle vient occuper tout. Elle vient animer tout. C'est parfois un peu complexe, l'énoncé de la foi chrétienne, mais l'enseignement, comme au CIF, consiste à rendre accessible cette complexité. On s'y efforce. Voilà, tous les enseignants s'efforcent d'énoncer les choses les plus complexes dans des termes les plus audibles. Pas forcément les plus simples, mais audibles. Ben c'est ce que vous allez, j'espère, c'est ce dont vous allez faire l'expérience ici. Mais c'est complexe, à vrai dire. C'est pas si complexe que ça. En tout cas, c'est complexe comme le sont nos vies. Les gens disent « Ah, la foi chrétienne, c'est pas simple. » Et vos vies sont simples ? Évidemment non. Et donc, vous voyez, il ne faut pas s'inquiéter de la complexité de la foi. Nos vies sont complexes. La foi a besoin de la raison comme la raison a besoin de la foi. Nous ne croyons pas uniquement... Ah ben, j'ai oublié de passer mes photos. Voilà, ça c'est les arcs boutants. C'est un beau schéma, hein. Ça, c'est les arcs-boutants du Mont-Saint-Michel. J'ai pu monter dans les structures hautes. Et ça, bien sûr, Ah, ça vient d'être restauré. C'est Notre-Dame de Paris. Un des chevets vraiment les plus extraordinaires qui soient. Et donc, je reprends, nous ne croyons pas uniquement ce que nous comprenons, tout comme nous n'aimons pas chez autrui uniquement ce que nous comprenons de lui. Il y a toute une part de lui qui nous échappe et que nous aimons. Enfin, sauf erreur de ma part. C'est comme ça qu'on aime, par exemple, ses enfants. On n'aime pas ses enfants parce qu'on les déchiffre entièrement. N'est-ce pas? Bon, ben voilà. Et c'est parfaitement raisonnable que de penser que chez les gens qu'on aime, il y a toute une part insaisissable. C'est complètement raisonnable de penser ça. Ce serait même déraisonnable et monstrueux de penser le contraire. Eh bien, pareil pour la foi. Donc, vous voyez, pas d'inquiétude. La foi, ça relève de l'existence. C'est existentiel. Donc, voilà le rapport avec mes deux images entre foi et raison. Oui, c'est pas si compliqué. Deuxièmement, un petit propos quand même sur le statut de l'interrogation. C'est très important. C'est très important parce que il y a des discours contradictoires là-dessus, notamment à l'intérieur de l'Église et notamment à l'intérieur, disons, de l'exercice de la piété. Vous vous posez des questions, vous avez parfois des doutes, vous avez envie de comprendre, le CIF est fait pour vous. Vous en avez assez qu'on vous empêche de réfléchir parce que c'est soi-disant un mystère, vous avez raison. Le mystère n'est pas un empêchement, c'est un appel. Il appelle tout en vous. Votre participation active, votre intelligence, vos émotions, vos amitiés, vos expériences mystiques, vos expériences banales, quotidiennes, exceptionnelles, tout est habité de mystère, de présence et de sens. Donc vous voyez, quand on entend dire, on l'a entendu, je l'ai entendu, dire « Oh, la foi, c'est un grand mystère. » Autrement dit, réfléchis pas. C'est déshumanisant. Et c'est pas chrétien. C'est déshumanisant parce que notre humaine condition est faite d'interrogation. Et c'est pas chrétien parce que dans la tradition de l'Église, on a toujours pensé que l'intelligence, la sensibilité, la fraternité appartenaient au corps de la foi. Et si on s'en passe, on crée une absence. Cependant, il y a quand même différentes façons de s'interroger. Il y a le doute sceptique, boudeur, celui qui fait le malin. Celui à qui on ne le fait pas. Vous savez, qui pose toujours des questions comme des objections. Ce sont souvent des questions prétextes pour ne pas aller plus loin. Alors ça, je vous le déconseille carrément. C'est un comportement nocif, prétentieux, supérieur et surtout dénigrant, qui manque d'attention. Il y a le doute méthodique, celui de René Descartes, XVIIe siècle. En fait, c'est une méthode pour comprendre le doute méthodique. C'est pas un doute, c'est une mise en question. C'est probablement ce qui vous anime pour venir ici. C'est-à-dire, c'est quand les choses ne sont plus avalées dans leur enrobage de sucre, mais quand vous cherchez à comprendre, questionner, interroger, penser, chercher avec méthode sans exiger des réponses saturantes. Voilà ce que nous faisons, nous. Qu'est-ce que c'est qu'une réponse saturante? C'est une réponse qui boucherait toutes les interrogations. Ben non, il ne s'agit pas de boucher les interrogations, mais de les développer. Une réponse saturante, c'est une réponse qui tue la question. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut développer la question. Voilà. Les bonnes questions, me disait un professeur de philosophie quand je commençais, les bonnes et les vraies questions sont celles qui demeurent. Par exemple, une question que, par exemple, peut-être vous posez, quel est le sens de l'existence ? Si un jour vous avez une réponse saturante et définitive à cette question, vous êtes mal barré. Dans l'existence tout court. Ou bien, qu'est-ce que c'est qu'aimer en vérité ? Aimer en vérité, si là aussi vous avez une réponse définitive, ben vous êtes mal barré. Et vos gosses avec. Bon voilà, c'est facile à comprendre. Alors il y a un troisième type de doute. Alors celui-là, évidemment, je ne le recommande pas du tout. Mais ça peut arriver, vous savez, le mot même de doute instille cette idée d'une angoisse, d'une espèce de point de bascule dans l'abîme. Ça, ça peut arriver dans l'existence. Hein. Ça peut arriver, vous savez, un prêtre jeune, 10 ans de sacerdoce, applaudi par tout le monde jusqu'à présent parce qu'il était jeune, qu'il allait dans les aumôneries, dans le scoutisme, adulé parce qu'il parlait bien, se retrouve nommé dans une paroisse où il tombe sur un groupe de laïcs très très réduit, grosse dépression, il suffit qu'il tombe un peu amoureux à gauche et à droite, et il se demande « est-ce que j'ai bien fait ?» Doute abyssal. Mais ça arrive aussi dans la conjugalité. Ça arrive aussi dans les carrières professionnelles. On se dit, mais j'ai fait des études, j'ai passé 10 ans à faire ce job, et qu'est-ce que j'ai perdu mon temps avec une bande de voyous. Et là, tout d'un coup, il y a des points de bascule dans l'existence, quoi. Alors ça, vous voyez, ce doute-là, ben, je ne le recommande pas. Ça vous tombe un jour ou l'autre sur la tête, il va falloir gérer. Et ça peut arriver sur la foi. Ça peut arriver sur la foi chrétienne. C'est-à-dire, est-ce que je ne me suis pas complètement illusionné depuis tout le temps ? Est-ce que tout ça a un sens ? Ben voilà, donc ça, si vous voulez, c'est le vertige, on ne peut pas le conseiller. Mais ça peut arriver. Le premier, ça arrive souvent, et il faut le bannir de vos existences. Le second, c'est ce qu'on vous propose. Pour chasser le premier et pour sauver le dernier. En tout cas, le pire, hein, c'est évidemment de ne pas s'interroger. Le pire dans le statut de la foi chrétienne, c'est celui qui sait tout, qui a des réponses à tout et qui ne s'interroge plus. Non, non, quand vous lisez l'évangile du dimanche, il faut s'interroger. Quand vous entendez une expression chrétienne, il faut essayer de la comprendre. Et là, avec vraiment les recommandations que je viens de donner, hein, c'est-à-dire chercher à comprendre, c'est pas ce doute sceptique, ce doute boudeur, ce doute prétentieux qui ricane de tout. Ça, faut laisser ça aux amuseurs publics, vous savez, à la télé ou à la radio. Nous, on ricane pas de tout, mais on veut tout comprendre, on veut tout interroger. Bon. Nous, au CIF, on est pour l'intelligence. Le centre, bon, centre, c'est déjà beaucoup dire. Enfin, un centre pour l'intelligence de la foi. Donc, on est pour. Ah, on est donc pour s'interroger. On est pour remettre les choses en question. Et on est pour apporter des éléments de réponse, bien sûr. Hein. Les études n'empêchent pas les questions. Tout au contraire. Parfois, peut-être, aurez-vous le sentiment d'être ébranlé dans la foi. Un peu de critique peut ébranler la foi. Un peu d'étude peut saper un certain nombre de certitudes. Mais ce n'est pas grave. Il peut arriver que ce qu'on vous a toujours dit s'effondre. Il peut arriver que ce que vous avez toujours entendu dans des prédications s'avère faux à la critique de l'intelligence. Mais rassurez-vous, on n'est pas là pour démolir ni pour ébranler. Ici, au CIF, ébranler, ça libère, comme les Dalton essayent de se libérer. Mais nous procéderons, nous, avec un peu plus de méthode que les Dalton. Nous ne creusons les questions que pour nous évader des mauvaises constructions. Des constructions nocives. Si elles sont mauvaises, elles sont nocives. Et donc nous creusons les questions, éventuellement nous ébranlons les forteresses, mais pour nous libérer du côté carcéral des réponses toutes faites. Alors ça, c'est quelque chose de très important, vous savez, quand on rentre dans les études de théologie d'une manière générale. Il faut se déplacer, certes, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans votre existence croyante, mais pour ouvrir, en fait. Pas pour démolir, évidemment. Le but de notre travail, c'est bel et bien de bâtir, d'étayer, de consolider la foi. Et inversement, de consolider l'intelligence. Mais il faut du temps, de l'aide, de la méthode et du travail d'équipe. C'est tout ce qu'on vous propose ici. Troisièmement, c'est bientôt fini. Troisièmement, il y a plusieurs dimensions de l'intelligence. Alors ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. J'utilise un auteur bien classique pour les gens de mon âge, qui est Jean Kelevitch, qui dit que l'intelligence a plusieurs dimensions. On peut distinguer trois formes complémentaires. La raison, je vous expliquer tout de suite, le cœur et l'esprit. C'est une manière de dire, hein. Cette trilogie a beaucoup bougé dans l'histoire de la pensée et dans l'histoire de l'Église. Comme on le voit sur ce schéma, les trois ne peuvent se recouvrir entièrement. Mais ces trois domaines s'informent largement les uns les autres. On ne peut pas réduire ce qui relève de l'émotion à un concept abstrait. Et pourtant, une part de ce que nous émeut gagne beaucoup à être éclairée par l'explication. Vous voyez, c'est... Et très souvent, on vit nos émotions d'autant mieux qu'on arrive à les exprimer. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle vous demandez à un enfant « Mais pourquoi tu pleures ?» Parce que le fait d'arriver à les exprimer, ça va mieux. Vous savez, vous avez un gosse qui fait du vélo, il se casse la figure, vous le voyez se casser la figure, et vous lui demandez, il pleure et tout, il crie, et vous lui demandez, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon petit chou? Et il vous raconte, et ça va mieux. Vous avez remarqué? Alors, moi qui n'ai pas eu beaucoup de gosses, j'ai déjà remarqué. Ben oui, le fait de le dire fait que l'émotion est plus vraie que quand on ne le dit pas. Donc vous voyez, les choses s'étayent et s'éclairent et s'animent. Donc les trois domaines ne sont pas séparables, mais ne se recouvrent pas non plus entièrement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je le sens que c'est vrai. Voilà. Donc voilà, c'est facile à comprendre. Alors Jean Kelevitch, lui, il développe beaucoup ça, hein, et il donne plusieurs, encore plus, d'éléments qui constitue l'esprit, ce qu'il appelle l'esprit. Alors, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, le cœur, l'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Ben, c'est tout ça, pour Jean Kelevitch. C'est-à-dire le beau, le sentiment du beau. Ben, vous voyez que le beau, c'est pas, ça relève pas tout à fait de l'intelligence quand même, mais pas entièrement du sentiment. Puisque, par exemple, il faut s'y entraîner. Ben, le beau, le bon... Le bon, c'est-à-dire ce qu'on goûte, le vin par exemple, c'est un exemple typique. Le vin, il faut s'y entraîner. Enfin, oui, il faut. Le tempérament fait partie de l'esprit, les convictions. Les convictions, elles ont été données par votre éducation, par votre milieu, par votre langue. Si vous étiez chinois, vous n'auriez pas les mêmes convictions. Et la langue fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle le matrimoine. La spiritualité fait partie de la dimension de l'esprit, la conscience que vous avez des choses, les opinions, les croyances, etc. Bon, ça, c'est du Jean Kelevitch, très bien. Qu'est-ce que la raison? C'est ce qui se démontre. Voilà, la raison, c'est ce qui se démontre, c'est ce qui peut s'exposer clairement. C'est presque mécanique, la raison. On ne peut pas réduire la foi à la raison, bien sûr. On ne peut rien réduire de l'existence à la raison. Mais il n'empêche que cette espèce de démonstration, cette clarification par le concept, nous aide bien souvent dans l'existence. Qu'est-ce que le cœur ? Mais le cœur, ce n'est pas uniquement les émotions, les émois. C'est la dimension sensible de notre existence. Et il y a beaucoup d'intelligence dans le sensible. Ce qui est rationnel, et je distingue encore, ce qui est rationnel n'est pas raisonnable. Ce qui n'est que rationnel n'est pas raisonnable. Il y a un excès de rationalité. Ce qui n'est que émotion rate l'émotion et est complètement déraisonnable. Vous me suivez là-dessus ? Oui, c'est assez facile à comprendre finalement. Oui, c'est-à-dire les excès de ces pôles forment des espèces de distorsions de notre humanité. Trop de sensibilité, ça vous donne ça. Hein. Ça vous donne, quand le sentiment a raison contre tout, bah, ça peut vous donner des catastrophes. Quoi. Mais pareil, quand la ratio, le rationalisme l'emporte sur tout, ça donne des monstruosités. Donc il faut que les choses s'équilibrent. Tout ça est assez facile à comprendre. Et en fait, notre existence est beaucoup plus large que la seule raison, bien sûr. La raison tire beaucoup de cette existence, elles sont nourries même, et la raison peut éclairer, enrichir tout ce qui n'est pas elle. Ce qui ne relève pas de la raison, de l'intelligence rationnelle, le beau, l'amour, le sensible, le monde, peut et doit être pensé. Oui, pensé mais pas contenu par la raison. Et donc, il faut conclure cette petite partie avec cette formule formidable de Claude Bruère, qui est un philosophe chrétien mort trop tôt, il y a maintenant 25 ans, qui dit ceci dans La Force de l'Esprit, mais vous allez comprendre cette formule, « Ce n'est pas exercer toute la raison de ne s'en tenir qu'à la raison. » Alors, Kant aussi a réussi à penser ça. Kant, il distingue raison et pensée. Il dit, la pensée déborde la raison. Et donc, il faut limiter la raison pour pouvoir penser, par exemple, le sensible. Le sensible est pensable. Et il est complètement déraisonnable de ne pas être sensible. Vous suivez le truc ? Voilà, ce n'est donc pas exercer toute la raison, c'est-à-dire, si vous voulez tout réduire à la raison, vous serez un monstre. Si vous voulez tout réduire au sensible, vous serez un monstre. Et voilà. Et donc, ce n'est pas exercer toute la raison de ne s'en tenir qu'à la raison. Il est parfaitement raisonnable d'aimer. Ce serait même déraisonnable de ne pas aimer. Et aimer n'est pas contenu dans la raison. Pareil pour le beau. Pareil pour Dieu. Autrement dit, tout ce qui compte vraiment dans notre existence ne peut pas être contenu dans la raison. Mais il est parfaitement raisonnable de le penser. Bon. Voilà. Et puis, alors pour rassurer un peu quand même tout le monde, il faut rappeler, c'est quelques images hein, pour illustrer ça, il faut rappeler que, par exemple, mais je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, il y a une vraie intelligence du sensible. Voilà, ça c'est... Et il faut le rappeler aux enfants, c'est qu'ils sont dits en difficulté scolaire. Ils ne sont pas en difficulté scolaire, mais ils ne rentrent pas tout à fait dans les cadres conceptuels de la raison. Mais ils sont dotés de formes d'intelligence, nécessairement. Alors il faut développer en nous notre intelligence telle qu'elle nous a été donnée. Quoi. Il y a une intelligence du sensible qu'il faut développer. Alors là, je donne l'image d'un artisan, mais alors... C'est formidable l'intelligence du sensible qu'ils ont. C'est des véritables leçons. Il y a une extraordinaire intelligence du geste, il y a une extraordinaire intelligence dans la communication sensible. Par exemple, ici avec l'animal. Il y a une extraordinaire donation des expériences sensibles. Et il y a une extraordinaire leçon d'humanité dans le sensible. Parfois, le sensible a raison contre la raison. La pitié. La pitié, vous savez, c'est le sentiment que Nietzsche détestait. Voilà, je vous le dis au passage. Et donc, je conclue en un mot. Aimer, ce n'est pas rationnel, mais il serait déraisonnable de ne pas aimer. Un mot pour finir sur, puisqu'on l'a déjà, on l'a beaucoup utilisé, mais pas encore expliqué, le mot théologie. On va faire de la théologie. Eh bien, fort de tout ce que vous venez d'entendre, il y a une théologie du sensible. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais en me présentant d'un groupe de pop louange qui anime la messe. Si à cette messe viennent, je ne sais pas, des gens très habitués à des messes un peu, je ne sais pas comment dire, empoussiérées, ils viennent là et disent « Oh, mais quel tintamarre, quel bruit, quel vacarme, on ne peut plus prier !» À l'inverse, vous avez des gens qui ne viennent là que parce que « Quelle ambiance !» C'est formidable, quelle ambiance. Alors on se dit, les premiers ratent l'aspect communionnel, l'aspect partage d'émotions, et les seconds ratent le côté métaphysique, transcendant. Ils ne viennent que pour l'émotion. Et c'est un très bon exemple. Eh bien, une théologie là-dedans. Théologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de comprendre comment Dieu se rend manifeste. C'est pas nous qui grimpons vers Dieu, c'est lui qui vient. Il se rend manifeste. Et nous allons essayer d'éclairer et d'énoncer. Théologie. Ça ne veut pas dire qu'on va tenir Dieu dans des concepts. Ça veut dire qu'on va essayer d'énoncer. Logos. On va essayer d'en parler. Théologie. Donc vous voyez, théologie, c'est pas un grand mot barbare. En fait, il a déjà parlé. Il a déjà instillé sa parole en nous. Et depuis belle lurette. Et donc, on va essayer de faire monter ça à l'expression. C'est ça, la théologie. Ah, évidemment, on va céder de concepts, on va céder de raisons, mais on va céder aussi d'expérience et de sensibles. Amen.